18h38, interactif sur France Inter.
France Inter, le 6-9 de l'été.
Intervenez.
Et avec nous en ligne, Gilles de Nîmes. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour. Alors d'abord, félicitations à Inter, hein, je suis toujours un fidèle. Bon, j'ai 63 ans, moi je vais aller vite. Je ne suis pas fouteux du tout dans l'âme. Mais là, franchement, bravo, bravo Didier Deschamps. Bravo le comportement des joueurs qui, moi, m'ont réconcilié avec un sport que je connais pas très très bien, sur le terrain, vis-à-vis de l'arbitre. Et je suis comme de nombreux, je pense, téléspectateurs qui... Moi, j'ai jamais été voir un match de ma vie sur un terrain de foot, hein, j'ai pas honte de le dire. Mais là, franchement, là, je dis pas que j'irai, mais je regarderai le foot vraiment avec un autre regard. Franchement, ce Didier Deschamps, c'est un type extraordinaire, qui a un nez d'une puissance, qui a su retirer ceux qui pouvaient poser problème. Et franchement, eh bien, je tire mon chapeau. Ils n'ont pas gagné, mais pour moi, ils ont gagné quand même. Franchement, avec les Portugais, pour moi, c'est pratiquement une égalité dans mon cœur. Franchement, parce que la communauté portugaise, je la connais bien. J'ai eu beaucoup de voisins, j'ai même des copains portugais. Et franchement, bon, là, bravo, bravo Deschamps, bravo cette organisation aussi. Hein. Et puis franchement, une reconstruire une équipe d'où elle venait, eh bien bravo à Deschamps. Et puis franchement, bah, je suis ravi.
Gilles, on vous sent réconcilié avec le foot. Hein.
Ah oui, franchement. Et puis toujours fidèle à Inter. Et puis voilà, et on y croit, et c'est reparti.
Alain Giresse, ce que dit Gilles, est-ce qu'il y a une page qui est tournée là, par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est soldé, Nice-Na, la grève dans le bus, etc. Ça on avait parlé de racailles à l'époque, hein, oui. De petites frappes, tout ça.
Ça sera toujours une plaie, ça restera toujours une plaie. Mais je pense qu'il fallait effectivement repartir sur de bonnes bases, et on sait très bien que quand quelque chose se détruit, il faut beaucoup de temps pour arriver à reconstruire, remettre en place une équipe, comme l'a dit l'auditeur, dans un comportement qu'on attend, notamment dans une équipe, pour une équipe nationale. Donc ce travail, il a été fait patiemment, et notamment par Didier Deschamps, qui a réussi à créer une unité, créer un état d'esprit, pour pouvoir présenter après une équipe qui étalera ses qualités techniques de football. Voilà, et sur ce point-là, je crois que c'est déjà, à travers cet euro, effectivement, quelque chose de réussi.
Patrick Henner, on tient là une équipe, même pour la suite ?
Oui, manifestement. Nous avons une équipe jeune, pas très expérimentée dans les grandes compétitions pour beaucoup de ces joueurs. Il y a une page nouvelle qui a été écrite pendant cet euro. Le livre n'est pas terminé. Et ce livre, il commence avec une nouvelle page dès le 6 septembre prochain, quand la France ira à Minsk pour jouer la Biélorussie en groupe A de la qualification pour le Mondial de 2018 en Russie. Donc, vous savez, on est abattu aujourd'hui, malgré... Et c'est formidable, cet auditeur et son dynamisme et presque son extase par rapport à l'événement. Bravo, bravo. J'aurais presque envie de l'inviter à un prochain match parce qu'il n'a pas vu de match de sa vie. Donc, pour les matchs de poule, pour le mondial, je suis prêt à l'inviter si j'ai ses coordonnées. Et pour le reste, eh bien, on y va abattu, mais conscient que nous avons là une pépite qu'il faut transformer en victoire. Et j'ai pas de pronostic pour le mondial, mais on ira loin.
Didier Deschamps a dit qu'il voulait rester jusqu'à 2018. C'est logique.
Ah oui, bien sûr. Je veux dire, c'est tout à fait légitime parce que le travail qu'il est en train de faire n'est pas terminé. Loin de là. Même si l'Euro avait été victorieux, je crois que cette équipe a encore la possibilité de s'affirmer, de prendre une autre dimension. Et c'est quand même lui qui est aux commandes du fonctionnement et de la mise en place de cette équipe-là. Et c'est une bonne chose, en tout cas, qu'il soit toujours aux rênes de l'équipe de France.
Cet auditeur nous disait, finalement, c'est presque comme si on avait gagné. C'est le sentiment qu'on peut avoir, ou quand même, malgré tout, voilà. Non,
on peut pas être déçu. On est déçu, bien sûr, déçu de la défaite. On est abattu, bien sûr. Mais sur l'ensemble, si on fait un bilan général, déjà, les objectifs que la fédération a énoncés, c'était demi-finale. Et là, tout le monde aurait été satisfait si ça avait été le cas. Et puis tout d'un coup, la demi-finale a été magnifiquement remportée. Et là, tout d'un coup, c'était des ambitions qui se faisaient jour pour pouvoir gagner 7 euros. On ne l'a pas fait, mais tout est positif dans le parcours de l'équipe de France, à tous les niveaux.
Et dans l'organisation, Alain. Et dans l'organisation, je crois qu'il faut le dire aussi, c'est important pour nous.
Oui. Alain Gérès, qu'est-ce qu'ils ont eu dans la tête, les joueurs, hier soir? Quelle nuit ils ont passé?
À l'après-match. Oh là. Là, je peux vous dire que ça va hanter, mais pas que hier soir. Pendant encore quelques temps, je peux vous dire qu'ils vont se refaire le film de la...
Des occasions ratées.
De la finale, et en se disant si, ils vont faire que des si, quoi. Voilà, malheureusement, on ne fera pas. Mais il va falloir vite que ça s'estompe, retour en famille, les vacances. Ils vont replonger dans leur club. Et tout ça, c'est la compétition qui va reprendre ses droits. Ils vont mettre ça dans le coin de leur tête. Ils ne vont pas l'oublier, mais il va falloir que ça leur serve et ça va leur servir.
Frédéric Depau est en ligne avec nous.
Oui, bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous, bonjour à nos invités. Je voulais poser une question donc au ministre des Sports qui a dit que le manque à gagner de l'exemption d'impôt de l'UEFA était compensé par les rentrées du tourisme. Alors je voulais lui demander si on n'aurait pas pu avoir les rentrées financières du tourisme et l'impôt de l'UEFA, et si on n'a pas eu, là encore une fois, en fin de compte, si on n'a pas cédé au chantage des puissances d'argent. Alors, je ne peux pas faire un parallèle avec M. Barroso qui rentre à Goldman Sachs, mais on se demande si le quinquennat de M. Hollande, qui avait désigné la finance comme son ennemi, si en fin de compte, ce n'est pas là son plus grand échec.
Je vais répondre à Frédéric, il ne faut pas tout mélanger. S'il me le permet, très, très, très sympathiquement, nous n'aurions pas eu l'euro s'il n'y avait pas eu le respect du cahier des charges imposé. Et puis, il faut être très clair, aujourd'hui, il y a des puissances économiques émergentes qui sont prêtes à tout pour avoir ces grands événements. Alors, on peut se dire, la France n'organise plus de grands événements sportifs, on n'organise pas la Ryder Cup de golf en 2018, on n'organise pas la Coupe du Monde féminine en 2019, on n'est pas candidat au JO de 2024. Non, je crois qu'il faut pas... Il faut regarder les choses en face. On peut avoir... entre guillemets, une approche morale, pour ne pas dire moraliste, de ces conditions qui sont fixées. L'objectif pour nous, c'est d'être une grande puissance sportive, une grande puissance capable d'organiser ces grands événements internationaux. Donc, il n'y a rien à regretter. Encore une fois, si à l'époque, en 2010, on n'avait pas accepté cette condition, nous n'aurions pas l'euro. Aujourd'hui, nous ne serions pas à ce micro, et je ne sais pas où en serait la France en termes sportifs sur un autre lieu de compétition. Donc, il est vrai quelques centaines de millions d'euros en jeu, mais je le répète, cette absence de rentrée fiscale sera compensée par la TVA liée à la suractivité économique liée à l'euro. Et très, très honnêtement, je pense que c'est extrêmement mineur par rapport à cette joie nationale que nous avons pu toutes et tous connaître autour de notre équipe.
Frédéric, vous êtes toujours là ? Non, moi je voulais savoir si ça lui convenait comme réponse. Patrick, qui nous appelle de Toulouse, lui.
Oui, bonjour Patrick. Bonjour et merci pour votre émission. Un peu déçu, évidemment, comme beaucoup de Français ce matin, de ne pas avoir été sacré champion d'Europe. Mais c'est la vie et on a vu une très belle équipe du Portugal. Je voulais poser la question au ministre que je salue. Je voulais simplement lui poser la question sur l'organisation. J'ai trouvé, très sincèrement, avec 24 équipes, ce championnat d'Europe, que j'ai bien aimé d'ailleurs quand il s'appelait championnat d'Europe des nations. Je trouvais que c'était une belle appellation. Donc cet Euro 2016, je l'ai trouvé un peu trop long. 4 semaines, 24 équipes, un mois. Hein. Donc, j'ai trouvé un peu démobilisé. Il y a eu des semaines, les deux dernières semaines ont été particulièrement longues, je crois à la fois pour les équipes et en même temps pour les supporters. Et peut-être qu'aussi les incidences d'une longueur jugée forcément haute, peut-être aussi ça a une incidence sur le plan budgétaire, notamment les forces de l'ordre quand elles sont mobilisées, mais également le tourisme, mais également les télévisions, tout ça font plus de dépenses peut-être que des recettes. Et encore une fois, il y a un peu de mollesse qui s'est installée sur ces 4 semaines, même si, grâce au bleu, la mobilisation des Français s'est fait forte les derniers jours. Voilà ma question.
L'euro ne se mesure pas qu'en termes de dépenses et de recettes. Hein. C'est d'abord un événement sportif, il faut le rappeler, avec cette union nationale qui s'est marquée autour de notre équipe en particulier, qui a fait un parcours remarquable. Vous savez, c'est 51 matchs, parce que 24 équipes égale 51 matchs, très concrètement, ont permis de faire venir des millions de spectateurs étrangers, 3, 4, voire plus de millions de spectateurs étrangers. Je rappelle aussi que plus de 1,5 million de billets ont été vendus à des étrangers, donc plus que la moitié de l'ensemble des billets, et qu'il y a eu entre 7 et 8 milliards de téléspectateurs sur l'euro. Donc une lisibilité pour la France exceptionnelle, une lisibilité internationale pour les 10 villes hôtes. Après, le choix de 24 équipes, donc de 51 matchs, est un choix qui relève de l'UEFA. Est-ce que c'est trop ou pas assez? En tout cas, c'est maintenant la règle. Vous savez, la Coupe du Monde qui s'annonce en 2018 comportera encore plus d'équipes. Voilà, après, je laisse aux spécialistes le soin éventuellement de réagir sur est-ce que ça a pénalisé la compétition? Moi, je n'ai pas le sentiment.
Jacques Vendroux?
Je n'ai pas du tout le sentiment. Franchement, je trouve que 24 équipes, c'est bien. Je trouve que la longueur de la compétition, je dirais, l'intéresse tout le monde. Et puis, ne l'oublions pas. Je veux dire, si vous avez 24 équipes, eh bien, vous n'avez pas des surprises comme l'Islande, comme le Pays de Galles. Je veux dire, ça permet aussi à certaines formations, comme l'Albanie, de se qualifier pour cette phase finale de l'Euro. Et tout ça, je parle sous le contrôle du ministre, je veux dire, c'est grâce à Michel Platini qui a élargi à l'époque où il était président de l'UEFA. Donc, si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est que d'abord, ça a été passionnant pendant un mois, qu'il y a eu du suspense pendant un mois, qu'il y a eu des bons matchs, ils n'étaient pas tous extraordinaires, ok. Mais aussi, la France a été heureuse. Je veux dire, la France a été heureuse d'assister au stade, d'assister au match. Les stades étaient pleins. Et puis hier soir, on a reçu sur France Info le Premier ministre Manuel Valls. Rappelons quand même, c'est important. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de drame, excepté l'affaire de Marseille avec ses abrutis d'anglais et russes supporters. Hein. Mmh. Et donc, en règle générale, c'était un total succès.
Qui a quand même été une faille, cette histoire de supporters.
Non, mais c'est un drame. Attendez, c'est un drame absolu. Il y a une faute forcément quelque part. Ça, il n'est pas question de minimiser. Mais si on fait sur les 51 matchs, je veux dire, c'est formidable, c'est bien. Tout le monde, à un moment, moi je me souviens, j'entendais des gens qui disaient il faut annuler l'euro, il faut annuler les fan zones, il faut rien faire du tout. C'est-à-dire qu'on donnait raison à tout le monde. Pas du tout. Ça s'est bien passé, excepté, je le répète, l'affaire de Marseille. Et on y était avec Alain Giresse souvent à Marseille. Bon, c'est vrai que c'était un drame épouvantable, c'est vrai, mais ok. Mais je veux dire, ça dépend pas non plus de l'organisation française. Vous avez une centaine d'abrutis complets, hooligans des Russes et des Anglais, qui se sont battus, et ça fait des drames, c'est vrai.
On peut parler de parenthèse enchantée, Patrick Kenner?
Parenthèse, c'est toujours un début et une fin. Moi, je pense qu'il y a une continuité. Une belle page a été écrite dans ce livre qui va se poursuivre, je l'ai dit. Et puis, je n'oublie pas non plus que, grâce à l'euro, nous avons pu rééquiper notre pays de stades formidables. Nous étions en retard par rapport aux équipements stadiers. Et là, maintenant, nous avons des stades capables d'accueillir les plus grandes compétitions internationales. Ça a été aussi de l'emploi. Je crois que l'euro, ça a été de l'emploi pour la construction des stades, et ce sera entre 10 et 15 000 emplois équivalents temps plein pour la manifestation. Donc moi, je vraiment, encore une fois, on est un peu dépité, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces mêmes réactions si la France avait gagné, mais je veux regarder la bouteille aux trois quarts pleins aujourd'hui, pour ne pas dire aux quatre cinquièmes, et c'est ça qui doit nous inciter à aller encore plus loin.
On est d'accord quand même que le foot ne change pas la donne de la situation économique, sociale, politique.
C'est souvent, excusez-moi, mais c'est souvent les journalistes qui évoquent ça. Vous n'entendrez pas un politique dire autre chose que le sport, c'est le sport, la politique, la vie économique et sociale, c'en est une autre. Mais que l'image de la France soit ragaillardie parce que nous avons été capables d'organiser dans les conditions que vient d'évoquer Jacques Vendroux ce formidable événement suivi par des milliards de téléspectateurs, oui, c'est une fierté collective. Après, il y a ceux qui sont dans l'exécutif, il y a ceux qui sont dans l'opposition, une opposition qui a essayé de polémiquer sur notamment les fan zones de manière injuste.
Pas raisonnable, disait Nicolas Sarkozy.
Oui, moi j'ai les déclarations des uns et des autres, y compris d'anciens ministre des Sports, certains ont, je dirais pas espéré, mais se sont dit, mais on va un peu mettre le bins avant la compétition, c'est dommage, ils n'ont pas eu raison, et l'histoire jugera.
Donc vous êtes soulagé en fait. Geneviève nous appelle du Vaucluse. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà, j'ai une question, je voudrais comprendre pourquoi un événement si populaire, si national, n'a été retranscrit que par des chaînes privées.
De télé.
Merci de votre réponse. De chaînes de télé, bien sûr, privées. Voilà, merci de votre réponse. Au revoir.
Ben, je vais me permettre de répondre.
Jacques Vendroux, allez-y.
D'abord, ça a été retransmis sur Radio France et notamment sur France Info, puisque nous étions d'abord la radio officielle. En ce qui concerne la télévision, je sais que c'est important, il y avait M6 et TF1 qui
chaîne a retransmis. Privée.
Chaîne privée, mais enfin, je veux dire, c'était des chaînes gratuites. Oui. C'est des chaînes gratuites, c'est-à-dire que le téléspectateur, il peut regarder le match tranquillement chez lui, que ce soit sur M6 ou éventuellement sur TF1. Et puis vous avez aussi la cerise sur le gâteau, si on peut parler comme ça, Beansport, chaîne privée, qui a retransmis, ne l'oublions pas, les 51 matchs pour un abonnement qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, était assez dérisoire. Donc je pense pas très honnêtement que la France ait été privée de cet Euro 2016 en ce qui concerne la télévision et la radio.
La question était claire, pourquoi pas France 2, France 3, Patrick Keller?
Bon, vous savez, il y a une concurrence terrible sur les droits TV, vous le savez bien. L'UEFA a présenté un chiffre d'affaires pour l'Euro de 2016, que c'est aussi une affaire économique, d'environ 2 milliards d'euros, un petit peu moins de 2 milliards d'euros. Et sur ces 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les droits TV représentent la moitié. Voilà,
Patrick,
c'est comme cela.
Keller, ministre de la Jeunesse et des Sports sur France Inter, Alain Giresse, Jacques Vendroux, patron des sports de Radio France. Merci tous les trois d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter.
Avant de faire
le grand saut dans l'univers, allez les bleus. On fait d'abord une petite pause.